Intègre Radio, le magazine féminin nouvelle génération.
Hey, I'm a chick carrot, hanging up, daddy, or you'll be alone in a quick. Hang up the chick habit, hanging up, daddy, or you'll never get another fix. I'm telling you it's not a trick.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Marine, je suis ravie d'être avec vous sur Radio Campus Rennes, dans YEG Radio précisément, l'émission féminine nouvelle génération. On vous retrouve depuis 4 semaines pour cette demi-heure hebdomadaire dédiée à YEG, votre mensuel d'information locale vu à travers le point de vue des femmes. Une bonne adresse à retenir, yegmag.fr. Vous y trouverez toute l'actualité des femmes sur le site et dans notre mensuel en diffusion sur cette même adresse. Alors allez-y, cliquez, lisez, faites-vous plaisir. Je vous présente tout de suite celles qui sont autour de la table avec moi. D'un côté, Marie Lelevier, journaliste pour YEG. Bonjour Marie.
Bonjour Marine, bonjour à tous.
Tu as testé un sport la semaine dernière, c'est ça ?
Voilà, spécialement pour vous, j'ai testé pour vous l'aquacycling, voilà, qui est très en vogue et qui continue de faire des adeptes.
En effet, on va en parler tout à l'heure. Cette semaine... Ce n'est pas une invitée que nous avons quand même, c'est deux. Hein. On est ravis.
Quel privilège.
Pour YEG Radio. Exactement, ça commence à faire du monde dans les studios. En tout cas, il s'agit de Marine Bachelot, auteure et metteur en scène au sein du collectif Lumière d'août. Bonjour Marine.
Bonjour Marine.
Et à ses côtés, Florence Chérel de Mine Productions. Bonjour Florence.
Bonjour.
On est ravis en tout cas d'être avec vous. Hein. Et on ne va pas maintenir le suspense plus longtemps. Qu'est-ce qu'on vous a concocté au sommaire cette semaine ? La revue Citadelle, faite par les détenus de la prison des femmes de Rennes, est enfin disponible sur Internet. L'aquabiking, un sport intensif testé par Marie pour vous mesdames. La création du collectif HF Bretagne, qui met en lumière l'égalité femmes-hommes dans le domaine des arts et de la culture. C'est ce que nous verrons dans le 10 minutes avec Marine Bachelot et Florence Chérel, qui sont toutes deux membres du collectif HF Bretagne. Au programme également, vos rubriques traditionnelles en fin d'émission, c'est l'instant féministe et les bonnes sorties de la semaine. Et pour vous faire honneur justement à cette fameuse égalité homme-femme, on va réserver tout au long de l'émission des duos musicaux, hein, parce qu'il n'y a pas,
pas de raison
en musique, on a des duos.
Égalité totale au niveau musical.
Et donc c'est parti tout de suite. We got married in a fever, hotter than a pepper. Le projet Citadelle, le magazine féminin fait par les détenus du centre pénitentiaire de Rennes pour les détenus, est désormais disponible pour le grand public sur Internet. L'occasion pour nous de revenir sur la conception de ce féminin sans barreaux à l'initiative d'Alain Faure, coordinateur du projet pour les établissements Bolek, spécialisé dans l'illustration et le graphisme. Pour réaliser cette revue de 39 pages, Citadelle a allié l'esprit « do it yourself » des établissements Bolek et le système P des détenus de la prison des femmes. On trouve au fil des numéros beaucoup d'astuces puisqu'il faut être astucieux en détention. C'est ce que nous explique Anne-Héloïse Botrel, médiatrice culturelle pour la Ligue de l'enseignement 35, qui assure le lien entre les établissements Bolek et l'administration pénitentiaire dans le numéro 17 de YEG. En septembre 2012, elles étaient 24 à s'intéresser à la création d'une revue féminine, puis le groupe réduit et fonctionne avec une quinzaine de participantes, un chiffre stable entre celles qui partent, qui sortent de prison et les nouvelles. À raison d'un atelier, voire deux par semaine, elles n'ont pas le temps de chômer et alternent entre journalisme et illustration grâce aux interventions d'Audrey Guyère, pigiste à Rennes au sein d'Objectif Plume et à des collectifs partenaires comme Barbe à Papier. Technique d'écriture, de dessin, de gravure, la revue table alors sur une qualité supérieure à celle des autres journaux édités en prison, c'est ce que nous a dit Anne-Héloïse Botrel également. 500 exemplaires sont répartis entre les prisons du Grand Ouest, pour les détenus et le personnel pénitentiaire, les familles des rédactrices et les bibliothèques bretonnes. Actuellement, la revue est disponible pour le grand public sur établissementbolek.com. Alors, le magazine doit son intérêt à la diversité de ses sujets. Dans les numéros, l'équipe aborde des sujets de fond comme la procédure simplifiée de l'aménagement des peines, l'insertion professionnelle à la sortie de prison, ainsi que des conseils de beauté ou des recettes à la sauce pénitentiaire. La sexualité lors de la détention est aussi traitée à travers des thèses, des interviews de sexologues et leurs connaissances.
Sur place, les participantes ont accès à une cyberbase qui est actuellement en phase de test. Elles peuvent réaliser des interviews téléphoniques, rencontrer des intervenantes, comme par exemple une professeure de yoga, une coiffeuse, une cuisinière, ou encore obtenir de la documentation Audrey Guyère faisant le pont avec l'extérieur. Donc construction de propos, structuration de la pensée, ouverture sur l'extérieur, l'expérience est enrichissante sur de nombreux points. Une expérience valorisante qui puise sa force et son énergie dans les savoir-faire et les savoir-être d'un groupe éclectique, allant de la bonne sœur à la jeune femme qui passe sa licence, nous a dit Anne-Héloïse Botrel. Leurs motivations sont diverses entre l'envie d'écrire, d'apprendre, d'avancer dans des projets personnels et surtout l'ambiance de groupe. On se marre bien entre nous et c'est l'important. Notre leitmotiv, on ne rigole pas assez en prison, conclut Anne-Héloïse Botrel. Alors, vous avez entendu Jackson de Johnny Cash et June Carter Cash. On vous laisse maintenant apprécier la poésie de La beauté de l'amour avec Arthur H. et Isia.
À la sortie de la villa, juste après l'orage, tu as trébuché, j'ai démarré. Quitter les rivages, quitter les indélicatesses. L'âme légère et sans personne pour nous tenir en laisse. C'est le cœur.
La beauté de l'amour, Arthur H. et Isia dans Yeg Radio. On est complètement fan d'Arthur H. Allez, on en a parlé sur yegmag.fr, on en a parlé la semaine dernière dans votre émission Yeg Radio. Et on entre dans les détails aujourd'hui avec Marine Bachelot et Florence Chérel, deux membres du collectif HF Bretagne. Alors le mouvement HF, il est né d'un constat assez alarmant. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Aha, vaste question.
Alors, c'est parti du rapport de Rennes-Pratt commandé par le ministère de la Culture en 2006 qui a mis à jour les inégalités criantes de la répartition femmes-hommes dans les milieux de l'art et du spectacle vivant et de la culture en général. Milieu qu'on croit très souvent un petit peu...
Précurseur.
Eh bien, pas du tout. On est dans des chiffres assez effrayants de l'ordre de 80% des structures culturelles sont dirigées par des hommes et donc 20% par les femmes. 80% des textes mis en scène sont des textes d'hommes. Mmh. Voilà, 75% sont mis en scène par des hommes. Alors voilà, c'est des ordres de grandeur, il y a des chiffres très très précis, mais en gros on est un petit peu dans les chiffres de l'Assemblée nationale.
on peut faire un parallèle entre les femmes en politique et les femmes dans la culture.
Oui, c'est des domaines qui devraient être précurseurs comme dit Florence et qui sont vraiment à la traîne parce que quand il n'y a pas de décision politique qui sont prises, quand il n'y a pas de mise en place de tendre vers la parité, eh bien, on n'y arrive pas.
Alors les deux rapports de Rennes-Pratt, c'est 2006-2009 et c'est en 2008 que se monte le premier collectif HF. Donc il en existe d'autres en France.
Alors en fait, c'est un mouvement qui se veut national avec des antennes qui se créent en région. En fonction de l'ancienneté des antennes, c'est-à-dire que par exemple en région Rhône-Alpes, ils existent depuis beaucoup plus longtemps, donc ils ont déjà mené des projets comme des saisons égalitaires en fait, où du coup il y a des structures, des théâtres qui s'engagent à faire une programmation paritaire en fait par rapport aux personnes qui sont à la direction des structures artistiques, enfin des compagnies. Donc, par exemple, en Rhône-Alpes, ils sont rendus, je crois, à leur troisième saison. En Bretagne, en fait, il y a eu quelques réunions. On s'est réunis à quelques-unes depuis un petit moment. Et puis, du coup, il y a eu l'envie de faire exister, en fait, ce mouvement de manière officielle, de le monter en association et de créer une assemblée générale officielle pour inviter un maximum de personnes à venir s'emparer de cette question.
D'accord. Et là, justement, la première assemblée générale va avoir lieu le 5 novembre.
Voilà, le 5 novembre prochain à 17h à la DRAC de Bretagne. Donc, en plus, pour nous, c'est assez symbolique d'être accueillis dans les locaux de la DRAC.
En effet. Et alors, en Bretagne, est-ce que vous connaissez déjà justement la situation au niveau de l'égalité hommes-femmes dans les arts et la culture ?
Disons, à chaque fois que... Enfin, voilà, quand le rapport Rennes-Pratt est sorti, les gens étaient très, très, très étonnés. Ils ne pensaient pas forcément que c'était encore d'actualité 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, un autre diagnostic est fait, les mêmes constats. Ensuite, à chaque fois qu'un collectif se monte en région, tout le monde dit « Ah ben non, mais nous, en région, ça se passe pas du tout comme ça. Et dans les faits, quand il y a des diagnostics de territoire qui sont faits, c'est exactement la même chose. Donc, dans un premier temps, effectivement, notre volonté, c'est de poser ces diagnostics en Bretagne. Et on se doute bien qu'ils ne doivent pas être vraiment différents qu'ailleurs. Et ensuite, de se donner les moyens d'essayer de corriger, justement, et d'être vigilants tous ensemble par rapport à ça, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il y a un but de dénoncer certains gros dirigeants de structures rennaises et bretonnes plus largement
ou... Alors, il ne s'agit pas de dénonciation ou d'attaque ad hominem, parce que ce n'est pas le but. C'est juste de faire l'analyse structurelle de qu'est-ce qui se passe sur le territoire breton, qui dirige les salles, les plus grandes salles, quelle est la composante des programmations en termes de répartition femmes-hommes. Voilà, de produire un diagnostic le plus scientifiquement possible, statistiquement
le plus
possible.
Objectif, en fait.
Oui, c'est ça. Et ce sera objectif, puisque ça consiste à prendre les plaquettes des saisons, à regarder qui est auteur, qui est metteur en scène, à regarder aussi qui dirige dans les structures, qui est numéro 1, qui est numéro 2, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'assez constant en France, c'est-à-dire que souvent, on a un directeur et la personne numéro 2 est souvent une femme, donc avec des responsabilités souvent tout aussi importantes et un rôle dans la structure très, très important, mais évidemment, pas avec le même poste symbolique ni le même salaire. Je parle de salaire, là aussi le rapport Rennes-Pratt a fait le constat d'inégalité sur des structures de même taille, quand c'est dirigé par un homme et quand c'est dirigé par une femme, le budget n'est pas du tout le même. De même pour un spectacle, on va dire avec le même nombre d'acteurs, le même type de gabarit, une metteur en scène femme va avoir souvent au moins 20% de moins de budget qu'un metteur en scène homme. Donc c'est faire apparaître toutes ces inégalités structurelles et dire bon bah elles sont là, ne les nions pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ensemble? Comment on y remédie? Est-ce que vous êtes d'accord pour vous engager, vous en tant que structure culturelle, dans une saison égalité? Alors je précise par rapport à ce que disait Florence, les saisons égalité c'est pas faire 50-50 dans la programmation, oui. Parce que ce serait imposer des quotas, c'est pas le but de HF. Le but de HF, c'est que les femmes sortent du statut de minorité. Et Ren Pratt avait dit, quand on est en dessous de 30-33%, on reste dans un statut de minorité, ce n'était pas possible de renverser la vapeur. Quand on a un petit peu plus de... quand on est au-dessus de 30%, c'est possible d'évoluer. Pour donner un chiffre local d'une grosse structure, par exemple, le Théâtre National de Bretagne, sur sa saison 2013-2014, a 25% de spectacles écrits ou mis en scène par des femmes. Donc voilà, on est encore à 10 petits pourcents pour renverser la vapeur. Ouais. C'est pas le plus mauvais élève au niveau national.
Qui est le plus mauvais élève, on veut savoir.
C'est souvent dans les orchestres, etc. Les festivals de Beaune, festivals de Chaise-Dieu, 0% de femmes. La Colline, par exemple, est à 21%. Bref, les chiffres viennent de la plaquette de la SACD. Où sont les femmes? Théâtre, musique.
On peut les retrouver, sur Internet?
Oui, sur le site de HF et puis sur le site de la SACD, je pense, sans problème.
D'accord.
Et vous, au sein de votre travail, est-ce que vous sentez également cette frilosité qu'on peut avoir par rapport justement à la responsabilité qu'on peut accorder aux femmes aux postes importants? Est-ce que vous le constatez vraiment au sein de votre travail, par exemple? Puisque vous êtes engagée, ça veut bien dire aussi qu'il y a de la réaction.
Après, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est une sensation personnelle, est-ce que c'est quelque chose de partagé ou non. Mais par exemple, moi j'ai l'occasion, je m'occupe d'accompagner des artistes en fait à la production, à la diffusion de leurs spectacles. Et c'est vrai que de manière très globale, en fait, on a tendance à appeler ce métier chargé de production et de diffusion. Donc déjà avec toute la connotation que le mot chargé peut avoir. Et en fait, dans les faits, les artistes sont souvent à la recherche de personnes qui les accompagnent vraiment, qui ont une stratégie, une vision globale aussi de leur travail, qui sont vraiment dans un processus d'accompagnement et de vision à long terme. Et du coup, ce métier-là a un nom, c'est directeur ou directrice de production. Et du coup, c'est vrai que dans les faits, c'est souvent un mot qu'on n'entend pas forcément souvent, alors que dans les faits, c'est l'intitulé du poste, et en tout cas, c'est ce à quoi ça consiste.
C'est vrai que la profession est très très féminisée parce qu'on voit beaucoup surtout dans les postes administratifs, de production, de diffusion. C'est assez fou comment plein de femmes travaillent pour les artistes et travaillent pour cette profession. Mais ce sont pas souvent celles qui sont symboliquement le plus récompensées. Et je trouve que c'est important, comme dit Florence, de dire plutôt directrice de production que chargée de production, tant c'est l'argent étant le nerf de la guerre. En tant qu'artiste, moi je vois il y a beaucoup de metteuses en scène, dont on sent bien que c'est plus difficile pour elles, mais parce qu'on a une éducation de fille, c'est-à-dire qu'en termes de se sentir légitime, affirmation de soi, oser aller rencontrer les programmateurs qui peuvent être parfois, ou directeurs qui sont majoritaires dans la profession, qui peuvent être parfois arrogants, qui peuvent parfois mettre en place des rapports un peu de séduction ou de paternalisme qu'ils n'ont pas forcément avec nos confrères garçons. Donc tout ça, c'est des obstacles à franchir, et le plus important étant, je pense, se sentir légitime. Moi, je sais que je travaille dans un collectif où il y a deux autres metteurs en scène garçons, et j'ai dû faire un sacré boulot, et le féminisme m'a beaucoup aidée pour me sentir légitime, pour croire à ce que je faisais, que ce que je faisais avait autant de valeur et que ma parole avait autant de valeur que la leur. Voilà, sachant que issue à peu près du même milieu socio-culturel que moi, m'avait beaucoup moins de problèmes de légitimité, il y avait quelque chose qui allait de soi. Donc c'est à la fois des obstacles financiers et puis symboliques, des aliénations, etc. etc.
C'est vrai que ça peut paraître surprenant quand même dans le milieu de la culture ou dans le milieu de l'art où, comme vous le disiez au début, on pense qu'il y a une ouverture d'esprit justement, qu'il y a une autre façon de penser et que ce soit quand même présent dans cet environnement. C'est assez surprenant.
Oh là là.
Ça fait aussi partie en fait de la démarche du collectif HF, c'est que même les gens qui travaillent dans les métiers de la culture ne savent pas forcément, n'ont pas forcément cette information ou conscience de ça. Donc il y a vraiment tout un travail en fait d'information autour de ça, et au grand public, et puis en interne aussi, des gens qui sont dans le métier qui ignorent ces constats-là, ou qui disent dans un premier temps mais non, c'est pas possible. Puis à un moment, quand on a les chiffres et qu'on les analyse, on peut pas le nier, quoi.
Alors juste une dernière question, parce que là, du coup, c'est dans le domaine des arts et de la culture. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la suite du lancement de ce collectif, on espère qu'il prenne de l'ampleur ? Est-ce qu'on espère qu'il commence à titiller un peu les autres domaines ? Enfin, on pense par exemple à la justice, qui, par exemple, est un monde aussi où il y a beaucoup d'avocats femmes, mais les postes de dirigeants sont souvent occupés par des hommes.
Ou la gastronomie également ?
Oui, exactement. Les chefs, oui, sont souvent des hommes.
Les chefs sont souvent des hommes.
Est-ce qu'on espère titiller aussi les autres domaines ?
Ah bah, ce serait extraordinaire. Déjà, nous, là, on est beaucoup de personnes plutôt du spectacle vivant, et c'est vrai qu'on est des plasticiennes, des photographes, des cinéastes, enfin voilà, des gens de toutes les professions des arts et de la culture, ce serait génial. Et après, oui, que les choses s'étendent ailleurs, oui, on voit bien sur la gastronomie, ça c'est quelque chose de très très marquant, la justice, mais qui sont, alors pour le coup, des milieux sans doute plus conservateur au niveau politique que ne le prétend être, par exemple, les milieux de la culture. Oui, je pense que ça doit se faire partout. Alors, ça se fera par les premiers et premières concernés, je pense aussi.
Très bien. On va bien évidemment suivre avec attention toute la création et l'évolution du collectif HF Bretagne. Merci beaucoup, Marine Bachelot et Florence Chérel. Restez avec nous dans YEG Radio. On continue de prôner l'égalité homme-femme. Femme-homme, hein, si on veut d'ailleurs être plus vindicative. Dans l'art et la culture, c'est en musique avec Mesparo et François, le chanteur de François and the Atlas Mountain, avec Danse avec moi.
Des hôtels. cascades, mes yeux plongent car tes mots chantent pour moi. Oh, et chantent pour moi.
Danse avec moi, ah, on se rappelle les concerts de Mesparo que l'on avait suivi à l'Antipode pour les embellis. Et on en profite justement pour annoncer son concert le 7 novembre à l'Ubu de Rennes. Et bien sûr de François Endy, Atlas Mountain, auquel on avait assisté à la prison des femmes de Rennes lors des transmusicales. Une action culturelle qui malheureusement ne sera pas renouvelée cette année. Mais bon, tout cela, c'est à retrouver sur yegmag.com. Alors, si les concerts, c'est du sport, Marie a testé la semaine dernière, non pas les foules déchaînées de l'Antipode ou de l'Ubu, mais le vélo sous l'eau. Si, si, ça fonctionne. Hein.
Tout à fait.
Marie, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sport aquatique très en vogue depuis quelques semaines et qui continue de faire des adeptes.
Eh oui, Marine, de l'aquacycling, un cours collectif de vélo dans l'eau, comme un vélo d'appartement, mais dans une piscine, alors que je pratique depuis 6 mois, en fait. Voilà, d'où l'envie d'en parler, parce que je suis totalement séduite, et pour cause. Débarqué il y a environ 5 ans en France, à l'origine, ça a été inventé par des kinésithérapeutes italiens il y a plus de 20 ans, ce sport a tout pour plaire, notamment aux femmes comme moi, qui cherchent à remodeler avantageusement le bas de leur corps. Car oui, ce sport permet d'affiner la silhouette, de perdre du poids, de muscler ses fesses et ses cuisses, et puis surtout de combattre la cellulite et la peau d'orange dont nous sommes, et oui, majoritairement victimes, nous les femmes. L'aquacycling renforce également la ceinture abdominale pour avoir un ventre plat et permet d'éviter les problèmes de dos et de circulation sanguine. Et tout ça, attention, sans provoquer de courbatures, puisque l'effort dans l'eau permet d'épargner les articulations et la fatigue musculaire. Alors le cours dure en moyenne 45 minutes, en musique s'il vous plaît, avec l'aide d'un coach, et s'organise en plusieurs étapes. En premier, il y a l'échauffement avec un pédalage doux, puis une accélération du rythme cardiaque avec une cadence plus soutenue. L'entraîneur propose ensuite des exercices intenses où l'on décolle par exemple les fesses de la selle tout en pédalant, puis un travail sur le haut du corps avec des brasses sur le vélo et des pompes sur la selle. Alors ça fait peut-être un peu peur aux auditeurs, mais ça se fait très facilement. S'ensuit ensuite un sprint cardiaque et un renforcement du travail musculaire au niveau des cuisses. Le cours se termine par un retour au calme et des étirements. Alors selon Sarah Montard, chargée de clientèle au centre 36 Boulevard à Rennes, centre qui propose d'ailleurs l'aquacycling depuis septembre 2009, 70% du bas du corps est sollicité pendant cette activité, le reste concerne donc le haut. Elle conseille d'ailleurs de pratiquer l'aquacycling 2 à 3 fois par semaine pendant 3 mois au minimum pour constater un réel résultat. Il faut donc être assidu, mais les résultats sont relativement rapides. À celles qui se demanderaient si trop d'aquacycling aurait pour effet indésirable de trop muscler les cuisses, Sarah Montaroux répond que ce n'est pas le cas, on ne prend pas de volume avec l'eau, il n'y a donc pas de risque, m'a-t-elle précisé. Notez toujours, selon ses dires, qu'en pratiquant plus de 3 fois par semaine ce sport, on n'obtient pas de meilleurs résultats, hein. C'est pas la peine de s'acharner. À ce moment-là, si vous avez envie de faire plus de sport, il vaut mieux se tourner vers une autre activité en complément, comme le fitness par exemple. Tous les types de profils sont intéressés par l'aquacycling, selon la chargée de clientèle, des personnes en surpoids, mais également des personnes minces qui auraient envie justement, eh bien, de remodeler leur silhouette, celles qui ont des problèmes lymphatiques, il y a des hommes aussi, des femmes, notamment celles qui ont de la cellulite. Certains s'inscrivent même au centre juste pour ce sport, m'a-t-elle confié, et les cours du centre sont quasiment complets le midi et le soir, l'engouement est énorme, c'est un peu compliqué d'ailleurs parfois pour assister aux cours, il faut réserver à l'avance. C'est un sport qui permet à beaucoup de personnes de reprendre une activité physique et ce n'est pas négligeable, donc c'est quand même une bonne chose. Pour les contre-indications, a priori il n'y en a pas. Les personnes âgées peuvent faire de l'aquacycling. Au contraire, ça lutte contre les problèmes articulaires, cardiovasculaires et c'est bon pour le moral. Et puis pour les femmes enceintes, elles y sont également autorisées, à condition tout de même qu'elles s'abstiennent de travailler leurs abdominaux. Dans tous les cas, il vaut mieux qu'elles demandent l'avis à leur médecin pour plus de sécurité. Voilà, vous savez tout. Alors pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, je vous invite à vous y mettre au plus vite. C'est bon pour le corps et l'esprit. Que demander de plus ? C'est un sport merveilleux, l'aquacycling. C'est pour ça que j'y vais non, d'ailleurs cet après-midi.
Tu le vends comme personne. Hein. Ça vous fait rire, là. Hein,
est-ce que vous avez déjà pratiqué l'aquacycling ou l'aquabiking hein, ça porte les deux.
Moi, plutôt deux. Le vélo sous la pluie.
Oui, j'allais dire la même chose.
Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ressent moins la douleur, en fait, dans l'eau. Et ça, c'est quand même un plus par rapport au vélo d'appartement ou même au vélo tout court, où ça peut être parfois un peu douloureux quand même quand on n'est pas habitué. Alors que là, en fait, dès le premier cours, on se sent à l'aise.
C'est comme courir dans l'eau. On sent bien que
il y a plein d'activités qui se pratiquent dans l'eau.
Oui,
même
sinon,
des marches.
Sinon, je rassure quand même toutes celles qui sont en train de se dire « Oh là là, moi, je fais pas de sport ». On n'en fait pas non plus forcément.
Non, mais il faut faire du sport. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Je le revendique.
Allez, sans transition, on passe à l'instant féministe, la rubrique qui vous fait découvrir la culture féminine. Et on se la fait rapidement cette semaine, car on a beaucoup blablaté, forcément. Quatre filles autour d'une table, non, on va pas partir dans les clichés. Non. Allez, cette semaine, on vous parle d'un film qui fait beaucoup parler de lui, hein, depuis le Festival de Cannes, puisqu'il a eu la Palme d'Or, mais pas que. C'est La vie d'Adèle, de Abdelatif Kechiche. Alors, Marine, il me semble que tu l'as vu. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ton avis ? Déjà, juste sur le film, pas du tout sur la polémique.
Je trouve que c'est un très beau film qui se vit très bien là, pendant les presque 3 heures. Après moi, pour avoir lu la BD Source et avoir beaucoup aimé cette BD, ben, je trouve évidemment que le contenu militant de la BD écrit par une lesbienne ne se retrouve pas forcément dans le film et ses développements, parce qu'il a été réalisé par quelqu'un qui s'en est emparé. Mais je trouve que le regard sociologique porté est très très fort, que l'actrice principale Adèle Exarchopoulos est époustouflante. Oui. Moi je l'ai aimé, évidemment il y a toute la polémique autour, et puis voilà une petite déception du point de vue militant sur le film, mais ça je m'y attendais aussi.
Alors, tu peux développer cette déception ?
C'est-à-dire que tout ce qui fait, enfin la BD est une BD militante qui parle beaucoup de lesbophobie, enfin de ces questions qui voilà écrites par une lesbienne qui concernent les lesbiennes. Évidemment, un réalisateur hétérosexuel, il en a fait son objet, il en fait un très très bel objet, mais il y a plein de contenus militants qui ont disparu dans le scénario. Il pousse ses personnages ailleurs.
Oui, mais c'est vrai que moi je me suis fait la réflexion en sortant, en se disant tiens, il nous fait quand même un film sur un sujet qui est d'actualité au possible. Et finalement, la manière dont vit sa sexualité l'actrice principale est pas beaucoup développée. En tout cas, le rejet, elle est adolescente hein, quand elle vit sa première expérience homosexuelle. Il y a un petit rejet de ses camarades, mais bon, oui. On passe vite à côté.
Disons que le personnage dans la BD, justement, n'est pas une militante, n'est pas très investie dans les milieux LGBT, alors que la fille aux cheveux bleus l'est davantage. Mmh. Mais là, finalement, le personnage de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Emma dans le film...
Elle est assez doux.
Oui, elle est assez doux, n'est pas non plus très... Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce qui importe. Donc, c'est vrai que sur une palme d'or, sur un sujet comme ça, on aurait aimé que. Mais bon, voilà, je pense que d'autres personnes s'empareront de ces sujets-là et feront d'autres films qui auront peut-être d'autres prix. Et voilà.
Est-ce que c'est un film à voir pour vous ?
Oui, c'est un film. Je conseille quand même le film. Florence, tu l'as vu ?
Je ne l'ai pas vu encore, donc je ne peux pas me positionner dessus.
Tu penses y aller ?
Oui, je pense y aller, oui.
D'accord. Bah, en tout cas, on vous invite à aller découvrir ce film. Sortez un petit peu de cette polémique, ce fameux boycott. Il y a quand même autre chose à découvrir dans ce cinéma d'Abdelatif Kechiche. Ouais, mais il n'a pas facilité aussi.
Non, c'est un très, très beau film.
Voilà, donc on vous y invite, La vie d'Adèle. Allez, on reste du côté féminin, du côté égalité, femmes-hommes, du côté culture. Bref, c'est l'agenda de la semaine. Et Et maintenant, les rendez-vous de la semaine avec toi, Marie.
Et oui, Marine, que se passe-t-il à Rennes du 30 octobre au 6 novembre? Et bien, dans le cadre du festival Mettre en scène, les 5 et 6 novembre à 20h, à l'air libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, sera jouée la pièce de théâtre La Mouette du russe Tchekhov, une œuvre sur l'amour, sur l'art et les désillusions. Mise en scène par Yann-Joël Collin, cette création en résidence se voudra proche du spectateur. Elle sera composée de comédiens et de comédiennes, parité totale, comédiennes dont Marie Cariès et Catherine Fourtier. Puis toujours côté théâtre, le mardi 5 novembre à 21h au Café Théâtre Le Bacchus, 23 rue de Chalotet à Rennes, Céline Yanoussi présentera son One Woman Show. C'est pas un peu trop, un spectacle qui traitera avec humour des petits désagréments du quotidien, des conflits de génération et des années qui passent. Céline Yanoussi, que vous avez peut-être déjà découvert avec Florence Foresti dans Foresti and Friends, c'était en 2008. Désolé pour mon anglais. Et puis le 5 novembre, toujours à 18h30, à l'Institut franco-américain, cette caisse Chateaubriand sera organisée une conférence gratuite sur le thème de la danse américaine. L'évolution New Wave, moderne et post-moderne de cette danse, ainsi que ses influences européennes, y seront abordées avec la conférencière Claudie Servian, auteure d'articles et d'ouvrages sur ce sujet.
Sans oublier la nouvelle saison des premiers dimanches au Champ Libre qui débuteront le 3 novembre avec une carte blanche au Jardin Moderne de Rennes sur le thème Les gens libres. Donc plus d'infos www.leschampslibres.fr. En tout cas, on va passer une super bonne semaine.
Voilà, beaucoup de choses à faire, Marine, cette semaine.
Exactement, toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, il y a Gradio aussi, mais pas de panique, on revient très vite. Merci Marie, on se retrouve bien évidemment cette semaine pour traiter plein d'autres sujets dans YEG.
Beaucoup de travail nous attend, Marine, mais bon, nous sommes toujours là et actives.
On est en bouclage, ça veut dire que la semaine prochaine, vous avez votre nouveau YEG en ligne sur yegmag.fr. Merci à Marine Bachelot et Florence Chérel de nous avoir parlé du collectif HF Bretagne. On rappelle, première AG publique le 5 novembre à 17h à la DRAC. Merci à vous deux.
Merci. Merci.
À bientôt en tout cas. Merci à Claude qui réalise cette émission. Merci à toutes et à tous. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Même jour, même heure. Musique !